Vous êtes sur RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mardi 3 décembre, chaud devant, l'année 2019 s'inscrira parmi les trois plus chaudes jamais enregistrées sur la planète et la décennie dans laquelle nous sommes est inédite. Les inondations, sécheresses et feux de forêt vont se multiplier si l'on en croit l'Organisation météorologique mondiale. La France est un élève moyen. Résultat du dernier classement PISA établi tous les 3 ans par l'OCDE. La Chine et Singapour sont en tête. La France, en milieu de classement, n'arrive pas à dépasser les inégalités sociales. Dans RTL midi aussi, nous reviendrons au Mais dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un miracle qu'il n'y ait pas de victimes après l'effondrement d'un piton rocheux, mais certains ont tout perdu. Le blocage de plusieurs dépôts de pétrole dans l'ouest du pays, 2% des pompes sont à sec sur notre territoire et pourtant les Français s'y précipitent. Nous ferons le point sur ces revendications qui n'ont rien à voir avec la mobilisation contre les retraites. Il soutient les grévistes, mais participera-t-il à la manifestation jeudi? Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France sera l'invité de ce journal. La météo, bonjour Louis
Baudin.
Bonjour
Christelle, bonjour à tous.
Un froid sec qui pique.
Exactement, sec, parce qu'effectivement, il n'y a plus de précipitations sur la France en ce moment. Et puis également, le soleil hein, qui se montre alors plus ou moins facilement. C'est vrai qu'il le fait très facilement en ce moment de l'Aquitaine aux frontières de l'Est. C'est un peu plus compliqué au nord de la Seine ou encore près des Pyrénées. Mais là aussi, on pourra espérer quelques belles éclaircies. Les températures, vous l'avez dit, ça pique 4 à 8 degrés au mieux cet après-midi, quelle que soit la région, sauf près de la Méditerranée, où là, on aura quand même 12 à 17 degrés.
La question du jour sur RTL.fr à propos du blocage de dépôts pétroliers. Avez-vous fait le plein de votre voiture? Vous êtes 69% à nous dire que non, 22% de oui. On attend vos appels, vos réactions 32-10 sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle. Est-ce la galère pour trouver du carburant dans votre ville? C'est une question du jour. Est-ce que vous allez faire la grève jeudi? C'est une autre question du jour. Le niveau à l'école, si vous êtes parent d'élèves, si vous êtes élève vous-même, si vous êtes prof, parlez-nous. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça stagne? Et puis nous pourrons également parler de Messi, c'est son 6e ballon d'or. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est justifié?
RTL midi.
La décennie dans laquelle nous sommes est déjà celle de tous les records. Le mercure du thermomètre n'est jamais monté aussi haut depuis les premiers relevés en 1850. Les chiffres révélés ce matin par l'Organisation météorologique mondiale à la COP25 à Madrid sont inquiétants et leurs conséquences aussi, Virginie Garin.
Oui, on a vu cette année des vagues de chaleur exceptionnelles, particulièrement en Europe avec 46 degrés en France, mais les records ont été battus en Allemagne, en Belgique, en Norvège, près du cercle polaire. Record aussi de sécheresse en Asie et en Australie. Il y a eu les incendies au Brésil, un cyclone d'une intensité jamais vue en Afrique, au Mozambique. Alors, les météorologues qui ont présenté ces chiffres ce matin étaient très clairs. C'est bien lié au réchauffement, selon eux, et ces événements vont s'intensifier, ce qui va entraîner notamment beaucoup plus de décès et de déplacements. Cette année, 22 millions de personnes sur la planète auront dû déménager, fuir leur maison à cause de cyclones ou d'inondations.
Virginie, l'accord de Paris prévoyait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100. On s'en souvient, cet objectif est déjà hors d'atteinte.
Eh bien, on est déjà à 1,1 degré de hausse depuis 1850, c'est la référence historique depuis l'ère pré-industrielle. Donc 1,5 prévu dans l'accord de Paris, c'est désormais impossible, estiment les scientifiques. Alors si on ne fait rien, on va s'approcher plutôt de 3,5 degrés. Imaginez les conséquences, c'est pour ça que ces négociations sont très importantes. Prendre des mesures dès l'an prochain, réduire les émissions, il est encore possible techniquement de limiter la hausse à 2 degrés. Mais sans les États-Unis, le Brésil, l'Australie et le Japon, gros émetteurs et petits joueurs en ce moment dans ces négociations à Madrid, eh bien ça va être très compliqué.
Virginie Garin en direct de la COP25 à Madrid. Des phénomènes météo de plus en plus violents, c'est ce qu'on a observé ces deux derniers week-ends dans le sud-est du pays. Et au Mai, dans les Alpes de Haute-Provence, les pénitents sont devenus inquiétants. L'une de ces pointes rocheuses qui bordent le village et qui ressemble à des habits de moine s'est effondrée. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessés. Étienne Baudu, certaines maisons sont désormais inhabitables.
Ah oui, comme celle de Martine et Jacques. Pour leur retraite, ils s'étaient offert la maison de leurs rêves au pied des pénitents et ils allaient les protéger, disaient-ils. Ils avaient emménagé en août dernier. Hier, du haut de ses 80 mètres, ce pénitent et ses 3000 mètres cubes de pierre s'est écroulé sur leur demeure.
Moi, j'étais dans la chambre, sur mon ordinateur. J'ai entendu un grand bruit, de plus en plus fort, de plus en plus près. Et d'un coup, mon ordinateur a explosé. Je me suis mise à crier, j'étais vraiment marrée. Quand j'étais sur le balcon, c'était la catastrophe. J'ai vu carrément le pénitent qui était à côté de mon balcon. C'est fou, c'est impressionnant. Il a emporté toute la cuisine. Donc On ne sortait pas à la fenêtre, un après l'autre, mais on est sortis sans rien. Moi, j'étais en pantoufles, en une maison, quoi. Voilà, on se trouve dans la rue, et puis plus rien.
Plus rien. Ils craignent en effet qu'elle ne soit plus habitable. Alors, il ne faut pas se le cacher, hein, cette procession de pénitents s'étire sur 1 km, et certains s'inquiètent vraiment.
Est-ce qu'il y a possibilité de rester dans les maisons qui sont sous les autres pénitents? Parce que, ben, je veux dire, j'ai acheté une maison, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Ben, j'ai la frousse, ouais, si ça tombe, ben, d'accord, il y a d'autres maisons devant moi, mais il y a la mienne aussi dessous, quoi.
Alors ce matin, en hélicoptère, des reconnaissances ont été réalisées par les spécialistes du service de restauration des terrains en montagne sur l'ensemble des pénitents. Celui qui s'est écroulé sera sans doute purgé, d'énormes blocs risquent encore de s'effondrer.
Étienne Baudiot, mais pour RTL, élève moyen peut mieux faire, c'est en quelque sorte la mention que l'enquête PISA réserve à la France. Cette étude publiée tous les 3 ans évalue depuis 2000 les compétences en sciences, mathématiques et en compréhension de l'écrit des élèves de 15 ans et ce dans 79 pays de l'OCDE. La Chine est en tête du classement, la France en milieu, mais avec un point noir, les inégalités sociales, Armelle Lévy.
Oui, en France, le poids des origines sociales pèse plus qu'ailleurs sur les résultats. Les élèves français les plus favorisés socialement obtiennent 550 points à ce test de compréhension de l'écrit, mais les plus défavorisés, 107 points de moins. Les élèves français défavorisés sont 5 fois plus nombreux à ne pas atteindre le niveau minimum de lecture et d'écriture et de compréhension par rapport aux plus aisés. La France est donc championne des inégalités. Les élèves ont 5 fois plus de risques d'être en difficulté scolaire quand ils sont issus de milieux défavorisés. Et ce n'est pas tout. Le plus insidieux dans tout cela, c'est que même quand on est issu d'un milieu social plus modeste et qu'on est bon élève, on aspire moins à continuer ses études, on se projette moins dans l'avenir. 20% des élèves défavorisés qui ont obtenu de bons résultats à ce test n'envisagent pas d'études supérieures malgré leurs bonnes performances. Une autocensure jugée alarmante par l'organisation internationale. L'OCDE explique qu'il est urgent de réduire la fracture scolaire en France.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a tenu à commenter cette note moyenne.
On voit que nous restons au même niveau, c'est-à-dire que nous restons assez fortement inégalitaires. Les difficultés scolaires de ces élèves de 15 ans prennent largement leurs racines dans leurs premières années de vie et de scolarité. C'est pourquoi la priorité à l'école primaire reste plus que jamais ce qui doit nous guider. Cette priorité à l'école primaire, vous le savez, elle a donné des premiers petits fruits très intéressants en CP et en CE1. Et puis nous avons vu qu'ils avaient encore plus progressé dans les territoires les plus défavorisés. Les élèves français demandent à être plus aidés personnellement. Et c'est donc ce que nous allons accentuer dans les temps qui viennent, parce qu'il n'est pas normal qu'à la fin du collège, on ait encore des élèves si fragiles pour 20 ou 30% d'entre eux en matière de lecture, d'écriture et de calcul.
Jean-Michel Blanquer au micro RTL d'Armelle Lévy. On fait une pause, le temps de prendre de l'essence à la pompe.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Précipitation à la pompe. Les Français redoutent la panne sèche à 2 jours du début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Pourtant, le blocage des dépôts pétroliers dans l'Ouest n'a rien à voir. Ce sont les entreprises du BTP qui protestent contre l'alignement du prix du gasoil non routier qu'ils utilisent pour leurs engins sur celui du gasoil classique. Les gendarmes ont libéré les accès du dépôt de Verne sur Sèche près de Rennes et de celui de La Rochelle, mais ceux de Brest, du Mans ou encore de Lorient, où vous trouvez, Nicolas Bobby, sont encore bloqués.
Eh bien, pas l'ombre d'un CRS pour le moment. Le blocus est toujours actif. La situation reste figée devant le dépôt pétrolier de Lorient. Les engins de chantier sont collés. Norbert Guillou, le porte-parole, a en travers de la gorge l'évacuation du site de Verne-sur-Sèche.
Certainement, je l'ai en travers de la gorge parce qu'ils n'ont pas attendu qu'on amène, nous, notre proposition et ils nous ont attaqué avant. Donc ça, on ne peut pas accepter. Ben, notre proposition, c'était on repartait à zéro pour la loi de finances parce qu'elle est mal faite. On faisait une réunion auprès des ministres. Après, on mettait la loi en place.
Sous quelles conditions vous pourriez lever le blocus?
La condition va être que j'ai un rendez-vous avec Édouard et Philippe, comme je l'ai demandé depuis 2 mois.
Les files d'attente sont impressionnantes ce midi devant les stations-service. Emmanuel Seyé emploie 22 salariés dans le BTP.
Moi, je comprends que certains sont énervés. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, si on veut se faire entendre, on n'a pas le choix que de paralyser un petit peu la région. Et puis, l'idéal serait que de paralyser le pays.
Ce matin, j'ai croisé des camions-citernes au ventre gorgé de carburant. Ils alimentent les pompes immédiatement prise d'assaut.
Et le dépôt de Brest, on l'apprend à l'instant, est en cours de déblocage. Les préfectures du Finistère et du Morbihan réquisitionnent les pompes à essence en ce moment pour les services de secours. Faisons le point justement avec vous, Éric Vanier. C'est surtout dans l'Ouest que les pompes sont à sec.
Oui, essentiellement en Bretagne et en région Pays de la Loire, où les stations-services ont dû faire face à une demande de carburant 2 à 3 fois supérieure par rapport à un jour normal. Ailleurs, et notamment en Normandie, Poitou-Charentes, Île-de-France, Nord-Picardie, dans la vallée du Rhône aussi jusqu'à Marseille, l'Union française des industries pétrolières a noté une surfréquentation des pompes à essence de l'ordre de 20 à 30% et forcément, ici ou là, des stations-service n'ont pas pu suivre. Elles ont dû fermer totalement ou partiellement leurs pompes le temps d'être à nouveau ravitaillées. Alors, à l'heure où l'on se parle, combien de gérants pompistes sont en difficulté? Il y a 11 000 stations en France et vous avez deux façons de recenser les endroits où ça coince. Soit vous faites confiance au site internet qui centralise les infos que leur donnent les automobilistes internautes et là, on arrive à près de 800 stations-service perturbées, dont la moitié totalement privé de carburant, mais ce n'est pas très fiable car évidemment les automobilistes alertent ces sites quand ils tombent sur des pompes à sec, mais oublient de prévenir quand la station rouvre. Ou alors, et c'est beaucoup plus sérieux, on fait confiance aux professionnels, notamment à la branche débitant de carburant du Conseil national des professions de l'automobile, qui a mis en place tout un système de remontée des informations 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, y compris depuis le réseau des stations de la grande distribution. Et là, le chiffre tombe à 200 au dernier pointage de 10 heures, 200 stations-service confrontées à des difficultés d'approvisionnement.
Voilà, donc ça fait à peu près 2% qui sont à sec, donc pas de panique.
2%.
Voilà. Le gouvernement, lui, s'est fixé comme objectif de limiter l'impact de cette grève. Ce matin, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a réuni les directeurs des agences régionales de santé et elle s'est voulue rassurante.
En Île-de-France, parce que c'est là où les difficultés d'accès peuvent réellement se faire sentir en raison des distances, un certain nombre d'hôpitaux de la région ont pris des dispositions pour loger les personnels, notamment ont réquisitionné des chambres d'hôtel, ce qui va permettre aux soignants d'éviter des allers-retours extrêmement fatigants. Nous avons fait évidemment le point sur le carburant et la capacité à prioriser les transports sanitaires pour l'accès au carburant. Alors, il y aura aussi des grévistes dans les hôpitaux, et donc nous suivrons la situation de façon régulière, tous les jours, avec des remontées. Et nous prendrons éventuellement des dispositions pour faciliter l'accès à ces établissements pour les malades et pour les soignants, si jamais la grève était amenée à durer plus longtemps.
Agnès Buzyn, micro RTL d'Odile Pouget. Sachez aussi qu'en prévention, la préfecture de police de Paris fait fermer tous les commerces présents sur le parcours de la manifestation jeudi. Tous ceux installés sur les boulevards menant des gares du Nord et de l'Est jusqu'à la place de la Nation. Ce même type de dispositif avait déjà été mis en place le 1er mai dernier. Emmanuel Macron, lui, se rend au sommet de l'OTAN à Londres, où l'échange risque d'être assez frais. Tout à l'heure avec Donald Trump, le président américain juge très insultant le jugement du chef de l'État sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN. Autre dossier qui fâche, la taxation par la France des GAFA, ces géants américains du numérique. Washington menace d'imposer des droits de douane supplémentaires pouvant aller jusqu'à 100% sur les produits français, notamment les vins pétillants, les fromages, les cosmétiques ou encore les sacs à main. Dans un instant, l'invité d'RTL Midi, Nicolas Dupont-Aignan, sur la réforme des retraites.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Et l'invité d'RTL Midi, c'est Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Bonjour.
Bonjour madame.
On est à 2 jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que vous allez y participer?
En tout cas, j'appelle les Français à manifester contre cette réforme très injuste, car c'est pas la réforme des régimes sociaux simplement, spéciaux pardon, c'est la réforme de toutes les retraites. Et si le gouvernement voulait vraiment remédier aux abus de certains régimes, pourquoi taper sur 95% des futurs retraités?
Donc vous voudriez juste une réforme sur les régimes spéciaux,
supprimer
les régimes spéciaux et puis c'est tout.
Ce qu'on a proposé, c'est tout simplement de corriger les inégalités, de faire en sorte que la pénibilité soit prise en compte dans tous les régimes, de faire en sorte que notamment les femmes d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs qui ont travaillé avec leur mari ne soient pas complètement privées de droit à la retraite. Il y a des corrections à apporter. D'ailleurs, les Français savent bien qu'il y a besoin de réformes parfois. Mais pourquoi instituer ce système à points qui va détruire les retraites et le niveau des retraites? Je voudrais que les Français qui m'écoutent comprennent quelque chose. On va plus calculer le montant de la retraite sur la moyenne des 25 meilleures années du salarié du privé ou des 6 derniers mois du fonctionnaire. On va la calculer sur les points accumulés au cours de 43 ans de travail.
Au cours de toute sa vie.
Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir un boulot identiques toute leur vie, et c'est très rare aujourd'hui, vont voir leur pension chuter. On ne prendra plus les 25 meilleures années, mais on prendra les 43. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, et tous les Français ont compris, savez-vous, que cela va faire une baisse qui a été chiffrée entre 9 et 20% des pensions de retraite. Est-ce que c'est acceptable ? Non.
Mais si vous faites uniquement une réforme sur les régimes spéciaux,
très dur.
Si vous faites uniquement une réforme sur les régimes spéciaux, vous montez une partie du pays contre l'autre.
Mais c'est ce que fait le gouvernement, puisqu'il nous dit toute la journée, si vous manifestez le 5, c'est que vous êtes solidaire d'abus. Non. Si les Français n'en peuvent plus, c'est par exemple aussi les professions libérales, ceux qui ont bien géré leur caisse de retraite, qui vont se voir piquer, si je peux m'exprimer ainsi, près de 100 milliards d'euros. Ce qui ne va pas dans le gouvernement, c'est qu'il va trop loin, c'est qu'il s'attaque à tout le monde, c'est qu'il va mettre en place un système de points qui peut ensuite être dévalorisé. C'est ce qui s'est passé en Suède. Le système des points ne garantit en rien la retraite de demain. C'est un système anxiogène qui va casser définitivement la solidarité. Donc moi, je suis un gaulliste social. Je crois qu'il faut des réformes sur les abus, mais qu'il ne faut pas détruire ce qui est bien et ce qui garantit un niveau de vie aux retraités. Vraiment, vous savez, je ne suis pas du genre à manifester, mais je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Mais pourquoi vous n'allez pas manifester?
Parce que ce n'est pas le lieu d'un homme politique, c'est les syndicats. D'ailleurs, les syndicats seraient bien embêtés que les hommes politiques descendent dans la rue. Ce n'est pas l'objet. Moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de retirer son projet de points qui va fragiliser les retraités français et les futurs retraités français. Ce que je demande au gouvernement, c'est d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Et puis, je fais une proposition pour la suite, parce qu'après le 5, il ne faut pas que la France soit paralysée, et je propose à nouveau mon idée fixe, la grève de la gratuité. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si un contrôleur SNCF ou RATP rend gratuit les transports, il va être sévèrement puni par la loi. Moi, je veux rendre possible la grève de la gratuité, c'est-à-dire que les transports seraient gratuits. Ça embêtera bien le gouvernement parce qu'il perdra de l'argent.
Mais ça coûterait extrêmement cher aux contribuables.
Ça coûterait un peu plus, mais ça ne paralyserait pas les transports. Parce qu'aujourd'hui, le drame, c'est que si ça continue après le 5, qui vont être les victimes de cette grève? C'est les classes populaires, ceux qui travaillent. Donc moi, je propose manifestation maximum le 5, et puis après changer de mode de grève pour pas opposer les Français qui travaillent ceux qui les défendent.
Si c'est gratuit, Nicolas Dupont-Aignan, il faut quand même quelqu'un qui conduise cette rame de TGV
Hôpitaux, pourquoi la grève des hôpitaux, pourquoi la grève des hôpitaux est populaire? Parce que j'ai été encore dans un hôpital le jour de la grève, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes à tour de rôle assurent un service. Et les Français sont solidaires de cette grève. Et moi, je dis aux syndicats des transports, vous faites ça pour défendre la pension des retraites de tous les Français, oui, mais après, il ne faudra pas paralyser le pays, il faut trouver d'autres méthodes de grève. Et puis, il faut aussi que le gouvernement, à un moment, arrête de jouer la politique du pire. Franchement.
Non, mais tous les Français sont capables de savoir. Je comprends pas bien votre logique par rapport à la gratuité. Si c'est gratuit, d'accord, c'est une chose, mais ça va pas. Les trains ne vont pas avancer pour autant. C'est une réquisition qu'il faudrait, comme le demande Bruno Retailleau.
Non, parce que si la grève de la gratuité était permise par la loi, les syndicats pourraient le faire. Ils feraient grève, ils gêneraient leur autorité de tutelle, ils gêneraient le gouvernement, mais ils ne gêneraient pas les Français. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire changer le gouvernement. De faire changer de politique, c'est pas de paralyser tout un pays. Donc moi, je maintiens que à terme, il faut changer de mode d'organisation de grève pour réconcilier les Français. Et puis de son côté, le gouvernement doit comprendre qu'on peut pas tirer sur la corde toujours et affaiblir le pouvoir d'achat des futurs retraités.
Marine Le Pen souhaite un référendum sur cette réforme.
C'est une bonne
idée. Vous êtes sur la même ligne.
C'est une bonne idée qu'un référendum, mais on sait le résultat. Vous savez. On ne peut pas continuer à amputer le pouvoir d'achat des retraités. Il y a eu la désindexation, il y a eu la hausse de la CSG, sur laquelle le gouvernement n'est revenu qu'en partie. Le pouvoir d'achat des retraités est de plus en plus faible. Si on continue avec cette réforme, cela veut dire que très vite, les Français sauront qu'ils n'auront pas de retraite demain, ou une retraite misérable, et ils iront vers quoi? Vers la capitalisation, c'est-à-dire des assurances privées. Et moi, je défends un système qui ne soit pas le système de la capitalisation, qui serait d'une injustice incroyable. Il faut maintenir la solidarité du système de la répartition. Je propose aussi des financements. Si on luttait un peu mieux contre la fraude à la carte vitale, si on luttait un peu mieux contre toutes les fraudes, je peux vous dire que le système de retraite, il est équilibré.
Il faut quand même trouver entre 8 et 17 milliards d'euros.
Et bien, vous savez qu'il y a 1,8 million 1 800 000 fausses cartes vitales en France. Mmh. Vous savez que les travailleurs détachés qui viennent de tous les pays d'Europe ne payent pas les cotisations sociales retraite. Vous savez qu'on donne un minimum vieillesse à des gens qui n'ont jamais cotisé dans notre pays. Alors vous savez, si on faisait les économies possibles sur les gaspillages, le système des retraites, il est équilibré. Qu'on arrête de culpabiliser ceux qui travaillent dur.
Merci beaucoup, merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans une dizaine de minutes.
Ça va être passionnant, mais même nous, on va perdre avec ce système-là, si j'ai bien compris, puisqu'on va cotiser sur 40 ans, quoi. On prendra 40 ans.
Il faut attendre d'avoir les comptes précis de la réforme.
Au lieu de 25, et jadis c'était 10, paraît-il.
Oui.
10 meilleures années, donc...
Et entre nous, je peux faire une remarque. J'ai pas le droit.
Allez-y.
Qui, aujourd'hui, peut travailler 43 ans quand vous avez des stages jusqu'à 30 ans et qu'on vous jette à 49 ans? C'est ça le problème de fond, et c'est le problème de l'emploi. On ferait mieux de s'occuper des recettes, c'est-à-dire de ne plus délocaliser.
C'est vrai qu'au-dessus de 50 ans, c'est souvent difficile de trouver du job aujourd'hui.
C'est une des questions qui se posent en tout cas.
Exactement, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du jour. exactement, le sujet du jour, c'est aussi le blocage des dépôts pétroliers. Est-ce que vous avez anticipé et fait votre plein? Appelez-nous, parce que là, c'est quand même très étrange. J'ai écouté votre journal, a priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude,
non,
mais il n'empêche qu'on est en train de faire de l'inquiétude.
Vous savez que dans Paris, c'est la même ruée.
Mais dans Paris, certaines stations d'essence sont fermées. Est-ce que vous allez faire grève jeudi? Est-ce que vous serez présent aux manifestations? On parlera de l'école française. Si vous êtes prof, si vous êtes élève, si vous êtes parent d'élève, appelez-nous et pour juger du niveau de français aujourd'hui. C'est le classement PISA. On est moyen, manifestement. Et puis Messi, sixième ballon d'or. Est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps?
Pourquoi Dieu est espagnol, disait ce matin la presse.
Écoutez, mais il y avait discussion, il y avait débat.
Allez, à tout à l'heure. Louis Baudin, vous nous avez remis la lumière, c'est
sympa. Oui, j'ai remis un peu de lumière. Alors, je vois qu'il n'y en a pas partout, c'est vrai. Encore quelques petites plaques qui traînent ici dans le nord, le centre, encore près des Pyrénées. Alors c'est vrai qu'au nord de la Seine, ça restera encore un peu aléatoire. Même chose au pied des Pyrénées, mais ailleurs, c'est bien soleil qui finira par s'imposer cet après-midi. Le tout avec évidemment du temps sec, pas besoin du parapluie, un peu de vent près de la Méditerranée, des températures pas de saison. 4 à 8 degrés au nord comme au sud, sauf tout près de la Méditerranée, où là on aura quand même 12 à 17 degrés.
Et tant mieux, ils en ont besoin.
Oui.
Et demain, ça va cailler dans le nord?
Voilà, il va faire très froid dans le nord, plus froid encore que ce matin, entre moins 4 et 0 degrés à peine, donc ça gèlera quasiment partout. Dans le sud aussi, des gelées, sauf tout près de la Méditerranée. L'après-midi, encore plus froid, toujours dans la moitié nord, 3 à 6 degrés seulement dans le nord demain après-midi. Voilà prévenu, ça ira mieux en revanche dans le sud-ouest avec 10 à 12 degrés, et près de la Méditerranée, on sera toujours entre 13 et 17 degrés, le tout avec du soleil encore plus présent qu'aujourd'hui quand les brouillards auront disparu.
Et demain, vous remettez la casquette, Louis?
Oui, ah bah oui, mais de toute façon, j'avais déjà mise aujourd'hui.
Allez, bonne journée.
Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto.
À suivre le rappel des titres avec Sébastien Rouxel.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Vous le savez, aujourd'hui c'est la Journée internationale des personnes handicapées. L'occasion de répondre à l'appel lancé il y a plus de 50 ans par Lino Ventura quand il créa Personnages. Alors faites place dans vos cœurs, dans la société, faites place à ceux qui ont besoin qu'on les respecte, qu'on les accueille dans des maisons de vie. Pour soutenir son action, Personnages vous donne rendez-vous dès maintenant sur pers-neige.org.
RTL. Il est 13h.
Tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Sébastien Rouxel.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Emmanuel Macron s'est montré très insultant. Déclaration de Donald Trump qui dénonce les propos du chef de l'État sur l'OTAN. Une institution en état de mort cérébrale, avait estimé le président français il y a un peu moins d'un mois. Un sujet de discorde sur lequel Emmanuel Macron et Donald Trump vont probablement revenir cet après-midi. Les deux chefs d'État se rencontrent à Londres dans une heure en marge du 70e anniversaire de l'OTAN justement. Autre sujet probablement abordé, celui des menaces du président américain. Il projette de surtaxer des produits français comme le champagne jusqu'à 100% si le gouvernement instaure une taxe sur les géants du numérique. La rencontre s'annonce tendue, Pierre-Julien.
Un pas de toast au Roquefort, à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis où Emmanuel Macron s'entretiendra avec Donald Trump. Mais le président de la République demandera des explications sur ces nouvelles menaces. Au sujet de l'OTAN, il va développer sa position sur l'avenir de l'Alliance, notamment après le retrait unilatéral de Syrie décidé par Washington. Washington, abandonnant les combattants kurdes, pourtant nos alliés face à Daesh. Emmanuel Macron rappellera bien sûr que la France est un des partenaires les plus fiables de l'organisation engagée contre le terrorisme au Sahel comme au Levant et qui est proche de répondre aux exigences de Trump, à savoir consacrer 2% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires. Le chef de l'État plaidera également pour la reprise du dialogue sans naïveté avec la Russie. On pense forcément à la situation en Ukraine. Et après ce premier entretien, le président français aura un autre rendez-vous, certainement plus tendu, avec Recep Erdogan, une rencontre organisée au 10 Downing Street, aux côtés de Boris Johnson et Angela Merkel. La Turquie, qui joue aux yeux de Paris un rôle déstabilisateur après son intervention en Syrie et l'achat à Moscou du redoutable armement solaire S-400 comme un pied de nez à l'OTAN.
Pierre Julien pour RTL. Et concernant les menaces de Donald Trump, l'Union européenne prend la défense de la France. Elle agira d'une seule voix si les États-Unis surtaxent certains produits de l'Hexagone, annonce un porte-parole de la Commission européenne. Après celui de Verne-sur-Seiche près de Rennes, un autre dépôt pétrolier évacué ce matin, celui de La Rochelle après des négociations avec les forces de l'ordre. Celui de Brest est en cours d'évacuation. Ils étaient occupés depuis plusieurs jours par des professionnels du BTP qui protestent contre la fin de leur avantage fiscal sur le gazole non routier. Deux autres dépôts restent bloqués, ceux de Lorient et du Mans. Conséquence de ces blocages, les Français se sont précipités dans les stations-service. Plusieurs font face à une situation de pénurie. Les préfectures du Finistère et du Morbihan réquisitionnent des pompes à essence pour les services de secours. Autre contestation, celle des agriculteurs. Le Premier ministre recevait ce matin la présidente de la FNSEA. Christiane Lambert dénonce le non-respect de la loi alimentation et la mise en place de zones de non-traitement aux pesticides. Deux sujets sur lesquels elle estime avoir obtenu des garanties.
Nous avons obtenu des engagements et un calendrier sur les états généraux de l'alimentation. Le ministre de l'Agriculture a dit tout son attachement au plein dispositif. Le Premier ministre a confirmé qu'il fallait tenir bon pour l'application pleine et entière de cette loi, que les tricheurs seraient sanctionnés, qu'il s'agisse d'industriels ou de distributeurs, et qu'il fallait absolument qu'il y ait du retour de valeur sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Nous avons obtenu aussi un calendrier sur la question des distorsions et notamment des zones de non-traitement. Le Premier ministre s'exprimera lui-même dans les prochains jours pour dire que la science doit passer et que c'est la science qui doit faire référence. Et enfin, le Premier ministre a condamné fermement tous les actes d'intrusion ou les actes malveillants en direction des agriculteurs, saluer le travail et la convention qui va être signée avec M. Castaner. Et puis, nous devons légiférer pour que dans la loi, et aller sur les fonds baptismaux, il puisse y avoir une sanction pour les délits d'entrave, pour qu'il n'y ait plus l'impunité que nous connaissons aujourd'hui.
Christiane Lambert au micro RTL de Jacques Serret. La France, trop inégalitaire en matière d'éducation. Dans l'Hexagone, les élèves issus de milieux défavorisés sont surreprésentés parmi ceux qui éprouvent des difficultés à l'école. C'est ce qui ressort du classement PISA dévoilé ce matin par l'OCDE. L'Hexagone est juste au-dessus de la moyenne des pays riches. La Chine et Singapour caracolent en tête. La décennie qui s'achève devrait être la plus chaude jamais enregistrée, annonce de l'ONU ce matin à la COP25 qui se déroule en ce moment à Madrid. Avec son lot de canicules, d'incendies et de sécheresses, l'année 2019 s'inscrira parmi les trois plus chaudes depuis 1850. Enfin, une victoire pour les Bleus au championnat du monde de handball. Après une défaite et un nul, les Françaises se sont imposées 46-7 face aux Australiennes. Prochain adversaire, l'Allemagne. Coup d'envoi demain à 11h. Et puis la météo, cet après-midi, du soleil sur une bonne partie du territoire. Quelques nuages bas tout de même près de la frontière belge et sur le littoral méditerranéen. Quelques gouttes aussi sur le Roussillon. Côté température, ce sera toujours assez frais avec 4 à Nancy, 6 à Strasbourg, 8 à Bordeaux et 16 à Bastia. Vous écoutez RTL, il est 13h05. Dans un instant, les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud.
3210, prenez la parole sur RTL.